Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Le journal de ma vie, saison 2.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les miens.
20 août 2020.
Je suis peut-être tombée amoureuse de lui parce qu'il avait toujours la bouche sucrée.
Idée ce matin pour un titre, celui qui n'essaie pas.
Une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Gross. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.
Une nouvelle saison disponible à partir de vendredi 26 septembre.
Les Pieds sur Terre, Sonia Kronlund.
L'histoire qu'on vous raconte aujourd'hui se passe à l'abbaye de La Grâce, dans l'Aude, là où le plus grand incendie en France depuis 1949 a ravagé cet été jusqu'à 17 000 hectares selon certaines sources, blessé au moins 9 personnes et tué une femme âgée. À l'abbaye, il semble cependant que le feu ait fait un détour. Il a bien embrasé la colline d'à côté, mais épargné cette magnifique bâtisse de la fin du 8e siècle. Un miracle, évidemment. La bataille qui s'y livre pourtant est assez préoccupante, mais dans un autre genre. Une véritable bataille culturelle, pour reprendre le titre de la nouvelle newsletter de Mediapart, qui a décidé de proposer plus régulièrement un regard politique sur la culture. Une bataille qui pourrait sembler ici une querelle de clochers, une guerre picrocolline, si la culture n'était pas en réalité devenue, en France comme aux États-Unis d'ailleurs, un champ de plus en plus convoité par l'extrême droite, y compris par certains milliardaires qui tentent de fabriquer l'opinion en achetant des maisons d'édition, des journaux, des écoles et en finançant parfois des lieux culturels. Une bataille qui se déroule ici entre les deux parties d'une même abbaye coupée en deux depuis plus de 200 ans. Timothée de Roglaudre, qui s'y connaît bien en abbaye puisqu'il a écrit un livre sur les monastères et qu'on ne peut guère soupçonner d'être anti-religieux ou anti-clérical, y a mené une enquête rigoureuse.
Je suis à La Grâce, un village niché dans les montagnes des Corbières, à 40 km de Carcassonne. Le vallon est dominé par une abbaye médiévale, coupée en deux depuis la Révolution française. La partie privée est occupée depuis 20 ans par une communauté de chanoines traditionnalistes accusés de sympathiser avec l'extrême droite. Fin juillet, dans l'aile publique de l'abbaye, le banquet du livre, créé en 1995 par un groupe d'anciens militants maoïstes, souffle sa 30e bougie.
Chers amis, nous inaugurons aujourd'hui le 30e banquet du livre d'été de La Grâce et je veux immédiatement associer à cet anniversaire les éditions Verdier et l'association Le Marque-Page qui ont créé cet événement en 1995.
Je suis curieux de savoir comment se passe ce voisinage inattendu entre anciens Mao et chanoines tradis. Je rencontre d'abord Jean-Michel Mariou, l'un des fondateurs du banquet du livre. Il vit de l'autre côté de la rivière de l'Orbieu, dans une maison du village dont la façade est recouverte de vignes.
Je m'appelle Jean-Michel Mariou, j'ai 72 ans, j'habite à La Grâce, j'y vis depuis plus de 50 ans, je suis toulousain. Je suis fils de cheminot et voilà, j'ai fait des études d'histoire de l'art et je me suis retrouvé à l'université à Toulouse au moment où arrivait un groupe de Paris de militants de la gauche prolétarienne qui montait à Toulouse un groupe et j'avoue que la rencontre avec ces gens-là m'a beaucoup bouleversé. Leur façon d'appréhender la lutte, de foncer, d'ouvrir les portes à coups de pied partout où ils passaient, ça m'a enchanté. Et donc je me suis mis à les suivre et à vivre cette histoire de cette génération de ce qu'on appelait les Mao à l'époque. Et j'avais des camarades qui étaient des fils de vignerons, des Corbières, qui racontait que à La Grâce, autour, dans toutes les Corbières, il y avait des luttes viticoles qui étaient en train de naître. Et on a commencé à rencontrer les leaders viticoles. Et on s'est lié d'amitié avec eux et on s'est lié d'amitié avec ce village, avec les gens qui vivaient là. Donc quand tout ça s'est éteint, ben nous on est restés, on venait en vacances et puis on a commencé à louer des maisons, puis à s'imaginer une vie ici, quoi. Plus tard, on a créé le Banquet du Livre en 95 autour des éditions Verdier. Alors, Verdier, c'est pas simplement une maison d'édition, c'est aussi une ancienne métairie qui est à 8 km d'ici, dans les vignes. Et on était un petit groupe d'amis qui nous étions connus au début des années 70, dans la fin du gauchisme toulousain. Et on se réunissait là-bas pour parler de ce que nous faisions, chacun dans son métier, journaliste, professeur, éditeur. Et on a commencé à s'imaginer une semaine de rencontres pendant lesquelles on organisait des échanges entre divers créateurs, divers chercheurs, et c'était très fécond. Dès le début, on était à l'abbaye, dans la partie publique, et vraiment que c'était de la bricole, quoi. On récupérait des chaises à l'école pour les gens, on bricolait des tables, enfin c'était formidable. À l'époque, la partie privée n'était pas religieuse. À cette époque-là, nous, quand on a démarré, c'était un Allemand qui avait racheté ça pour faire un hôtel, quoi, voilà. Et ça ne s'est jamais fait parce que ce garçon a eu quelques problèmes avec la façon dont il avait réuni des fonds pour, bon, il a fait un peu de tôle, tout ça. Et il a, dans le plus grand secret, revendu les parts de la société civile immobilière aux chanoines. Alors les chanoines sont arrivés en 2004. Ils sont arrivés, ils étaient 4 ou 5, quoi. Alors la base de leur liturgie, c'est avant Vatican II. C'est-à-dire qu'ils disent des messes en latin, le dos tourné aux fidèles. Et donc c'est une communauté traditionnaliste. Quand ils sont arrivés ici, personne n'avait de réserve sur eux, quoi. Bon, des chanoines qui vont dans une abbaye, après tout, je me rappelle de l'expression qu'on employait à l'époque, on disait les boulangers dans les boulangeries et les chanoines dans les abbayes. Ça nous dérangeait pas, parce que on n'imaginait pas que assez rapidement ils se mettraient à faire de la politique, quoi. Alors, quand ils se sont installés, nous, on est allés les voir, on est allés se présenter en disant ce qu'on faisait, parce que c'était l'année où on relançait justement le Banquet du Livre, et ils étaient très à l'écoute. Et les premières années, il y avait toujours deux ou trois chanoines qui venaient assister aux conférences, quoi, voilà. Et ça s'est passé comme ça jusqu'en 2007, où il y a eu l'attentat contre la librairie du Banquet. Donc en 2007, le thème du banquet, c'est la nuit sexuelle, qui est le titre d'un livre de Pascal Quignard qui doit paraître au mois de septembre chez Gallimard. Et ça se passe très bien. Le quatrième ou cinquième jour du banquet, le matin, je reçois un coup de téléphone à 8h. On me dit, il faut que tu viennes tout de suite, il y a eu un attentat à la librairie. Donc, douche froide, on file là-bas, et effectivement, la grande librairie, qui est une immense salle, il y avait plusieurs tables qui avaient été recouvertes d'un mélange d'huile de vidange et de gasoil. Donc les livres, quand je dis les tables, c'était les livres, il y a eu des gens qui sont venus la nuit, qui sont rentrés par une toute petite fenêtre, et qui ont détruit le plus de livres possible dans le noir. Hein. Au passage, ils ont détruit les œuvres complètes de Saint-Augustin. Enfin bon, il y a eu à peu près 4000 livres détruits par ça. Et c'est un spectacle absolument épouvantable. Hein. C'est un truc qui peut pas se regarder en face, quoi. On On avait quand même subi, dans les jours qui précédaient le banquet, une campagne de dénigrement et d'attaque sur les deux ou trois sites internet d'extrême droite qui s'appelait le Salon Beige, des trucs comme ça, qui avaient vu passer le programme du banquet et qui montaient une sauce en disant la nuit sexuelle, il va y avoir des choses terribles dans une abbaye, même si elle est aujourd'hui publique, etc. Ils pensaient qu'on allait faire, je sais pas, des concours de striptease ou je sais pas quoi. Et le Figaro, dans sa grande clarté, avait rajouté une couche en faisant témoigner le père abbé qui disait oui, des gens du village sont venus nous voir très inquiets. Enfin, c'était grotesque. Et voilà. Et donc, on fait un communiqué. Et moi, je sors avec ce communiqué pour aller le porter au chanoine. Je sors sur le parvis devant et devant l'entrée de la partie des chanoines, je vois un chanoine qui sort avec trois jeunes gens de 20 ans, le crâne rasé, habillés comme des scouts nazis à l'époque, le visage gris, manifestement, il y avait une tension terrible, avec des sacs à dos, ils jettent leur sac dans une Renault Espace, et le chanoine se met au volant, et il les exfiltre, quoi. Et tout d'un coup, je comprends ce qui s'est passé, quoi. Donc, j'ai raconté ça aux gendarmes. L'adjudant Rodriguez, qui à l'époque dirigeait l'enquête, m'a dit « Je les ai vus, moi, au fond de la cour. Je les ai appelés. » Et il m'a dit « C'est très curieux. Ils n'ont pas dû m'entendre parce qu'ils sont partis. Ils ont sauté un mur et ils ont filé. » Moi, je pense qu'évidemment, ils y sont pour rien, les chanoines. Ils n'avaient aucun intérêt à ce qu'il se passe un truc comme ça. Mais après, ils ont refusé de dire qui ils étaient et même qu'ils étaient là, puisqu'ils continuent aujourd'hui encore d'affirmer qu'il n'y a jamais eu de scout d'Europe ce jour-là. Alors qu'il y a des tas de gens qui les ont vus et des témoignages qui ont été recueillis par la gendarmerie qui établissent qu'il y avait ce groupe-là. Et puis, petit à petit, l'enquête s'est enlisée, c'est-à-dire que finalement, des scouts n'avaient jamais été enregistrés dans l'Aude, les chanoines disaient qu'il n'y en avait pas, donc petit à petit, ça s'est éteint, et puis un jour, l'enquête a été close, au bout d'un an, donc à notre grande colère, mais on n'y pouvait rien. Il y a un livre qui est paru, Histoire des traditionalistes en France, d'Yves Chiron, qui est un livre qui raconte l'histoire de toutes ces congrégations qui se sont créées. Il y a un passage, une fiche sur les chanoines de la Mère de Dieu, et il y a en annexe une fiche sur Vladimir de Saint-Jean, le créateur. Et dans cette fiche, il est dit qu'il a été mis à l'écart de la communauté en 2006, officiellement pour des raisons de santé, mais en fait pour une histoire d'agression sexuelle. Ça nous a fait un petit choc quand même. Donc, on a eu envie d'en savoir un petit peu plus. On a commencé à poser des questions aux chanoines, et quand on a vu qu'on n'obtiendrait rien, moi je me suis dit, voilà, il faut enquêter. Donc, quand je suis allé travailler aux archives, que j'ai commencé à avoir des témoignages, là je me suis dit, il faut faire un petit livre. Et c'est ce que j'ai fait, et le livre est paru au printemps 2024. Quoi.
Dans ce livre, Jean-Michel Marioux révèle que dans les années 60, Vladimir de Saint-Jean, le fondateur de la communauté, avait déjà été renvoyé du séminaire français de Rome où il étudiait. Il était accusé d'avoir commis des agressions sexuelles sur d'autres étudiants. La décennie suivante, pourtant, il est ordonné prêtre en Espagne par un évêque d'extrême droite, fervent partisan du général Franco. Dans les années 2000, à la Grasse, Vladimir de Saint-Jean est cette fois accusé d'agression sexuelle par un jeune chanoine. L'affaire ne sortira pas des murs de l'abbaye pendant une quinzaine d'années.
Alors, le livre, il part de ce choix qu'a fait celui qui était à l'époque évêque de Carcassonne, de ne pas transmettre cette histoire à la justice des hommes, mais d'instruire un procès canonique. Tout a été fait dans les règles à l'intérieur de l'Église, mais moi j'avais envie de savoir pourquoi. Les seules réponses que j'avais, c'est qu'il fallait préserver les victimes. Sauf que d'abord, on a commencé par me raconter qu'il n'y avait pas de victimes. Le père Michel m'a dit plusieurs fois que c'était juste du harcèlement moral, c'est-à-dire une emprise, et qu'il n'y avait rien de sexuel, tout ça. Bon. Ensuite, on a appris que c'était faux. Il y avait eu une agression sexuelle, et que si on n'avait pas voulu en parler à l'extérieur, et donc en référer au procureur de la République, c'était pour protéger le projet qui était en train de se construire à l'intérieur de l'abbaye. Il faut quand même savoir que les chanoines, depuis 10 ans, sont accompagnés par des financiers proches de l'extrême droite, très puissants. Bon, on cite Dassault et Bolloré, etc. Alors, la connexion avec Bolloré, elle se fait par Nicolas Dial, qui est un éditeur, qui est un proche de Bolloré, et qui a amené à l'abbaye des écrivains pour faire un livre de réclame sur ces chanoines merveilleux qui retapent à main nue avec les millions d'euros qu'ils ont. Mais bon, ça me fait beaucoup rire, mais bon.
Les éditions Fayard et les 15 auteurs du livre se sont engagés à reverser l'intégralité des droits d'auteur aux chanoines pour financer la restauration de l'abbaye. Dominique Richard, qui s'occupe de lever des fonds pour les chanoines, me dévoile qu'ils ont perçu près de 50 000 euros.
Alors, ce Nicolas Adia, il est très proche de Bolloré et il s'est installé chez un des éditeurs que Bolloré a racheté récemment, qui est Fayard, pour y développer, avec d'autres, une maison d'édition proche de la droite extrême. Alors, ce qu'on peut voir, parce qu'il ne se planque pas beaucoup, c'est que Robert Ménard, par exemple, vient de temps en temps faire une retraite, là, ici. L'été dernier, par exemple, il y avait sur les chemins des jardins, on croisait souvent des petits groupes de jeunes hommes avec des t-shirts « Zemmour avec nous » ou « Nous avec Zemmour », je ne me rappelle plus. C'est un peu cette clientèle-là. Ce à quoi on se confronte ici, c'est au développement de l'extrême droite. Et ça, c'est un problème qui se pose partout. Donc nous, on a un certain nombre de particularismes locaux comme ça. On a une abbaye avec une communauté traditionnaliste. On a des députés qui sont Rassemblement National alors que c'est une terre de gauche de toute éternité. Donc tout ça, on l'observe. Tout ça, on essaie de mettre en place une manière de lutter contre ça. C'est pas forcément transportable ailleurs, mais en tous les cas, c'est les mêmes questions qui se posent qu'ailleurs. Et si on peut partager aussi des expériences, ben on le fera.
La partie privée de l'abbaye est séparée du banquet du livre par un grand mur de pierre. Pour s'y rendre, il faut ressortir du parc de l'aile publique, longer le cimetière quelques mètres et sonner chez les chanoines. Tout ça pour franchir un mur. Je suis accueilli là-bas par le père Michel. Depuis 2 ans, il est parti à Pau avec quelques chanoines pour fonder une nouvelle antenne. Cet été, il est de retour à l'abbaye en remplacement du père abbé, qui dirige la communauté. Issu d'une famille catholique marseillaise, il a rencontré les chanoines après des études de philo. On me l'a beaucoup présenté comme l'un des plus ouverts de la communauté. Il se dit, je cite, « assez anarchiste » et fréquente chaque année le banquet du livre. C'est peut-être pour ces raisons qu'il a été choisi par les chanoines pour répondre à mes questions.
Je suis donc Père Michel, je suis chanoine à l'abbaye de la Grâce, j'ai 49 ans, je suis passé directement des études au monastère. Donc j'ai fait le choix de cette communauté parce que j'y ai trouvé des frères et une vraie vie fraternelle. Un chanoine, ça ressemble à un moine, ça a l'habit d'un moine, mais ce n'est pas un moine. En fait, les chanoines sont des hommes qui se sont réunis pour prier ensemble, et c'est aussi une vie d'annonce de Dieu, donc soit à l'abbaye en accueillant les gens qui viennent, soit à l'extérieur de l'abbaye, à la demande de l'évêque du lieu, donc ça peut être d'aller visiter un service de soins palliatifs, ça peut être d'aller visiter une maison de retraite, l'accueil des migrants qui sont souvent laissés à eux-mêmes. Notre communauté s'est installée en 2004 dans une partie de l'abbaye. Alors nous, on arrivait un petit peu la bouche en cœur, très naïf, dans un pays que nous ne connaissions peu, les Corbières. Et les pouvoirs locaux, au début, ont été très méfiants. Il y a eu une tentative de déclaration d'utilité publique, mais qui n'a pas abouti, qui est venue pour but d'exproprier la communauté de l'abbaye pour en faire une propriété publique. Il y avait un petit côté, donc Amiot et Pépone, la lutte des pouvoirs publics contre les curés. Il y a quand même toujours eu de bonnes relations personnelles avec le maire, avec les familles. On n'a jamais eu de choses vraiment désagréables. J'ai jamais été insulté, j'ai jamais eu d'esclandre. Tout ce qui est strictement politique, pour nous, c'est à distance. Chercher Dieu, ça suppose, quand on est religieux, de faire un pas de côté par rapport à ce qui est le combat politique. Et d'ailleurs, chaque fois que des prêtres se sont occupés de politique, ils se sont plantés. Vous voyez, les pages les moins glorieuses de l'histoire de l'Église, c'est généralement les moments où les prêtres s'occupent de politique. Je ne sais pas ce que votent mes frères. On essaye de rester discret. Voilà, notre amitié entre frères n'est pas fondée sur une préférence politique, quelle qu'elle soit. Après, voilà, je ne vais pas vous dire que tous les frères sont des militants de la Ligue communiste révolutionnaire. Il faut être lucide. Mais surtout, ce qu'ils veulent, c'est ne pas être militants. Pour avoir eu parfois quelques discussions comme ça, très discrètes, je sais qu'il n'y a pas de vote monolithique chez les frères. Donc, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de consigne de vote. Moi, je ne sais pas ce que je voterai aux prochaines élections présidentielles. D'ailleurs, je n'ai pas voté depuis 4 ou 5 élections.
Malgré l'apolitisme affiché par le père Michel, il faut préciser, par exemple, que la petite librairie de l'abbaye met en avant des essais contre le totalitarisme woke ou rédigés par des journalistes de Valeurs Actuelles. On y trouve aussi de nombreux livres du cardinal guinéen Robert Sarah, coqueluche des médias d'extrême droite et proche des chanoines de la grâce qu'il connaît bien. Il représente l'aile la plus à droite du Vatican. Il n'hésite pas à comparer l'homosexualité et l'avortement au nazisme et l'immigration africaine en Europe à une invasion. D'après mes informations, plusieurs chanoines serviraient de plume au cardinal Sarah pour ses livres. Les chanoines ont aussi accueilli un événement de l'association SOS Chrétien d'Orient, fondé par deux anciens collaborateurs de députés d'extrême droite et proches du régime de Bachar al-Assad pendant la guerre civile en Syrie. À la présidentielle de 2022, Éric Zemmour a obtenu à la grâce 14% des voix, le double de son score national, alors que l'Aude est historiquement une terre rouge et populaire. Certains habitants y voient le résultat de l'implantation des chanoines et des familles catholiques qui se sont installées dans le village pour se rapprocher d'eux. Pour le père Michel, pourtant, l'animosité de certaines figures du banquet du livre contre les chanoines n'est que la conséquence de la destruction des livres au banquet de 2007 et sa fameuse nuit sexuelle.
Je sais que certains ont dit « mais c'est sûrement un des groupes de jeunes qu'il y avait chez les chanoines ». Ça me paraît tellement impossible. D'abord, le gendarme l'aurait vite vu. Et puis, les jeunes qui étaient là, je ne suis même pas sûr qu'ils savaient, ces jeunes-là, qu'il y avait un banquet du livre à côté. J'ai moi-même été souvent aux activités organisées par le banquet et je les ai beaucoup appréciées. J'y ai fait des rencontres, parfois passionnantes. J'aime fréquenter la librairie du banquet. Je dois y retourner d'ailleurs ces jours-ci pour faire mon achat annuel de livres que je trouve à la librairie du banquet. Et ce que j'apprécie beaucoup au banquet, moi, c'est la qualité de la programmation et le vrai mélange entre l'approche littéraire et philosophique. Donc moi j'aimais beaucoup aller au banquet dans les premières années, là, de 2004, 2007. Mais quelque chose s'est tendu, comme si une confiance était rompue. C'est vraiment dommage. De mon côté, je pensais que ça serait vite réparé. Mais avec certains, c'est clair que ça n'a pas été possible. Et que pour certains, il y a encore comme un péché originel, un doute, et qui fait que la confiance n'est pas possible. Ce qui est regrettable, parce que ben, finalement, nous sommes heureux d'avoir ces voisins. Je crois qu'on a beaucoup tendance à poser un filtre pour lire la situation non seulement de l'abbaye, mais du village, à poser un filtre centré sur le mur de séparation. Comme si c'était Berlin dans les années 50. Dans les faits, ce mur, il est poreux. Parce que les frères ont des amis dans le village qui sont pas des cathos. Beaucoup de frères apprécient les conférences du banquet et ne se pensent pas comme un camp face à un autre.
J'écoute le discours de paix, un brin lénifiant, du père Michel, et j'en viens à croire que les deux parties de l'abbaye pourront facilement surmonter leurs différences idéologiques et se réconcilier. Mais tout n'est pas si simple. Fin juin, un député Rassemblement National de l'Aude, Frédéric Falcon, familier de l'abbaye, est venu jeter de l'huile sur le feu. Dans une publication sur le réseau social X, il vole à la rescousse des chanoines, accusé par le quotidien régional L'Indépendant de connivence avec des réseaux d'extrême droite. L'élu affirme que, si son parti remporte les élections départementales et régionales de 2028, il fermera les Arts de Lire, le centre culturel qui organise le banquet du livre et vendra la partie publique de l'abbaye. Plusieurs figures du banquet du livre sont persuadées que les chanoines sont deux mèches avec le parti d'extrême droite pour acheter la partie publique de l'abbaye. Lors de l'ouverture du 30e banquet, cette menace, qui reste de l'ordre de la politique fiction, est pourtant dans tous les esprits, ainsi que sur les lèvres d'Hervé Barou, vice-président du conseil départemental de l'Aude et président des Arts de Lire.
On peut imaginer qu'il pourrait procéder à une réunification de l'ensemble du bâtiment. En tout état de cause, cette prise de position relayée par l'ensemble des députés audois nécessite une mobilisation de toutes et de tous, et à commencer par nous-mêmes. Il n'y a jamais eu, de notre point de vue, et il n'y aura jamais de complaisance à l'égard des idées, les structures que représente l'extrême droite dans notre pays.
C'était La Grâce, une abbaye coupée en deux. Un reportage de Timothée de Rogloudre réalisé par Emmanuel Geoffroy. Sachez qu'une version papier de cette enquête est publiée et disponible cette semaine, je crois bien, dans la revue 21 et signée du même Timothée de Rogloudre. Merci à Jean-Michel Mariou, au père Michel, à Jean-Sébastien Stel et à Dominique Richard. C'est Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et c'est Luce Mourant, notre stagiaire.